Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés du média suivant, Le Libraire. Au programme, Raphaël Germain, Mémoire vive et Promenade dans une cité de mots. Bonne écoute.
Raphaël Germain, Mémoire vive. Un texte d'Isabelle Beaulieu, paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Elle écrit des livres et scénarise pour la télévision depuis 2 décennies. Ces dernières années, Raphaël Germain s'est aussi intéressé au thème fécond de la mémoire avec d'abord la publication en 2016 d'un présent infini, atelier 10, un essai personnel dans lequel elle raconte les souvenirs envolés de son père, ravi par un cancer au cerveau. Dans « Pour mémoire », « Petit miracle et caillou blanc », Alto 2019, coécrit avec Dominique Fortier, elle consigne la beauté des choses, souhaitant ainsi la préserver de l'oubli. Maintenant, avec Forteresse et autres refuges, Québec-Amérique 2023, elle interroge à travers l'Alzheimer, vécu par sa mère, l'étrange manège des réminiscences. Lectrice invétérée, Raphaël Germain l'est incontestablement. Elle considère son besoin de lecture au même titre que celui de manger, dormir, respirer. Il faut dire qu'elle a grandi dans une maison peuplée de livres, faisant d'eux des éléments constitutifs de son habitat naturel. Les romans de KPDP ont, dès sa jeune enfance, parti le bal, qui ne s'est depuis jamais arrêté. De Pagnol à Dumas, elle s'abreuve d'aventures, puis un jour, elle rencontre l'œuvre ultime de la remémoration, le monumental À la recherche du temps perdu de Proust. C'est un roman total, selon moi, qui comprend tout, que j'ai lu plusieurs fois et que je compte relire encore, exprime notre invité. C'est vraiment un livre qui fait cheminer le lecteur. En le parcourant à différentes époques de notre vie, il nous apparaît sous des angles nouveaux, nous amenant chaque fois autre part et éclairant tout à coup des portions que nous sommes maintenant prêts à comprendre. D'ailleurs, Raphaël Germain s'adonne de plus en plus à la relecture, s'étonnant toujours de découvrir des aspects qu'elle n'avait pas vus la première fois, ou alors d'un tout autre point de vue. Il y a Virginia Woolf, que j'ai tout lu, un bonheur renouvelé et jamais édulcoré, et ça ne s'arrêtera jamais, insiste-t-elle. C'est une auteure fantastique et sans fond, c'est-à-dire qu'on peut toujours creuser et qu'il y a encore quelque chose. Emmanuel Carrère, John Kalman Stefansson, Jonathan Franzen, Paul Auster, Siri Oustved sont d'autres écrivains plus contemporains, pour ne nommer que ceux-là, dont elle a traversé toute la bibliographie. Courroie de transmission. Nécessairement, ces nombreux univers que Raphaël Germain a visités ne l'ont pas laissé intact. Les auteurs fréquentés sont devenus cette communauté invisible qui a influé sur sa manière de voir et ajouté à son propre parcours. Écrire pour elle participe de ce même mouvement qui va de l'extérieur vers l'intérieur et vice-versa. En toute chose, l'écriture, c'est vraiment une façon d'appréhender et de comprendre le monde, annonce-t-elle. Et cela prend d'autant plus son sens quand il s'agit d'aborder le sujet de la mémoire, puisque l'écrit suppose d'emblée une inscription dans la durée, un désir de toucher à l'indélébile. Que veut-on garder de ce que le monde a déposé en nous? Demande l'autrice dans « Forteresse et autres refuges ». Une question intéressante pour sonder nos valeurs profondes et développer une conscience aiguisée de ce qui nous fait nous mouvoir et de ce à quoi nous aspirons, de ce à quoi, au contraire, nous renonçons ou que nous voudrions oublier. Si Raphaël Germain aime retourner les pages de livres déjà lus, elle prend aussi plaisir à en découvrir d'autres qui viennent évaser ses horizons. Tel a été le cas de « Bondré » et « Proie » d'André A. Michaud, qui, de main de maître, sait mener des intrigues et installer des atmosphères dans une langue évocatrice et magnifiquement ciselée. Kevin Lambert aussi, qui me flabbergaste avec son intelligence et son engagement qui n'est pas moralisateur, estime-t-elle. Au passage, elle conseille aux politiciens la lecture de « Querelle de Roberval », une entrée dans les coulisses syndicales des travailleurs d'une scierie où tout un chacun dévoile son envie impérieuse de tout fracasser. Michel Lapierre d'Allaire avec « Y avait-il des limites? Si oui, je les ai franchies, mais c'était par amour, OK? » a eu le tour d'étonner notre libraire d'un jour par la fulgurance de son verbe et de ses propos sans concession. Côté français, elle se rappelle le roman « S'adapter » de Clara Dupont-Monod, lauréate du prix Fémina en 2021, une incursion sensible dans une famille bousculée par l'arrivée d'un enfant différent. Un verre avec Rimbaud. Question de partager avec d'autres ce qui l'anime et provoque en elle un soulèvement, Raphaël Germain donne régulièrement des livres en cadeau, qu'elle choisit d'après les intérêts de la personne. Le titre « D'autres vies que la mienne » d'Emmanuel Carrère revient cependant dans la liste, un récit bouleversant sur la mort qui, aléatoirement, enlève les uns et anéantit ceux qui restent. Notre lectrice, si tous les possibles se présentaient à elle, ne dédaignerait pas un tête-à-tête avec Rimbaud, même si elle est persuadée qu'il doit être désagréable. Baudelaire et Hugo sont aussi évoqués, témoignant de l'attirance manifeste de l'autrice pour les figures aux personnalités incandescentes. La littérature ouvre des portes et élargit le regard, pour Raphaël Germain, qui ne se repaît jamais d'en explorer les atouts. Au moment où l'on se parle, elle est immergée dans « La tristesse des anges » de l'auteur islandais John Kalman Stefansson, qui édifie toujours des romans cathédrales d'une grande force poétique, et elle se trouve captée par « Crossroads » de Jonathan Franzen, chronique américaine qui embrasse tant l'intime que l'universel. Pas très loin, trône également « A Book of Days », un album de photographie de l'artiste et esprit libre Patti Smith. Enfin, elle a ressorti ses livres de Gaston Bachelard, un vieux poète français, philosophe et psychanalyste, un peu réactionnaire, mais je l'aime, qui s'est penché sur « Qu'est-ce qui fait qu'on lit et qu'on écrit? C'est magnifique », assure-t-elle. Elle déclare ne pas avoir de genre ou de thème de prédilection, ni même d'attente particulière quand elle ouvre un livre. Seulement qu'il offre une proposition de changement de perspective, ce qui représente déjà tout un voyage. C'était Raphaël Germain, Mémoire vive. Un texte d'Isabelle Beaulieu, paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Promenade dans une cité de mots. Un texte de Marie-Ève Sévigny, paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. En accueillant Québec dans le giron des villes créatives de littérature 2017, l'UNESCO a notamment salué son réseau de 26 bibliothèques, sa maison de la littérature et son festival Québec en toutes lettres. La cheville ouvrière de cette effervescence littéraire, l'Institut canadien de Québec, l'ICQ, souffle ses 175 chandelles. Balade auprès du plus ancien organisme culturel francophone encore actif en Amérique. J'écris enveloppé de verre et de bruit. Les fenêtres du café donnent sur un chantier de construction de la basse ville et le grondement de la machinerie rivalise avec le brouhaha des discussions, les sifflements de vapeur espresso. Dans la rue grise et étroite, des badauds regardent un panneau vitré s'élever dans les airs, pivoter, puis les éclabousser de soleil. La bibliothèque Gabriel Leroy, 1983, troque son ancienne pèlerine de briques pour une étole de lumière. Il y a 40 ans, en implantant ce carrefour littéraire et culturel au cœur d'un quartier populaire, l'ICQ, la Ville de Québec et le gouvernement du Québec pariaient que la culture fabrique le bonheur, puisqu'elle bonifie la qualité de vie. Depuis, 25 millions d'entrées ont confirmé la démocratisation du lieu, autour duquel l'administration du maire Jean-Paul Lallier, 1989 à 2005, a revitalisé le centre-ville. Au deuxième étage de l'imposant bâtiment, des architectes discutent à l'endroit même où, bientôt, la diversité des rencontres répondra à celle des livres. J'ai l'impression d'entendre Alberto Manguel demandait dans « La cité des mots » comment le langage peut-il déterminer, limiter et accroître notre imagination du monde? Cet humanisme qui se matérialise ce matin dans la renaissance d'une bibliothèque centrale me semble justement avoir obsédé l'ICQ tout au long de son existence, et ce, dès sa fondation en 1848. Comment amener le plus de personnes possible à progresser à force de fréquenter, d'habiter le langage? Survivre par la lecture. J'essaie de me représenter le paysage intellectuel de Québec à la naissance de l'ICQ dans ce Canada uni de l'Acte d'Union 1840, tandis que la population canadienne-française est soudain engloutie dans la culture britannique. Les associations culturelles anglophones sont solides, contrairement aux initiatives francophones du même acabit, qui ne font pas long feu. Côte de la Fabrique, dans l'arrière-boutique de leur librairie, les frères Joseph et Octave Crémazy reçoivent une coterie d'écrivains qui deviendront plus tard les grandes figures de notre répertoire national. Philippe Aubert de Gaspé, père et fils. Henri-Raymond Casgrain. Pierre-Joseph Olivier Chauveau. Louis Fréchette. François-Xavier Garneau. Antoine Gérin-Lajoie. Étienne Parent. Joseph-Charles Taché. Le fait que ces auteurs, qui bénéficient déjà d'un lieu de rencontre pour partager leurs idées, souscrivent à l'Institut canadien de Québec comme membres fondateurs, manifestent une sensibilité aux besoins intellectuels de la collectivité. En 1898, tandis que l'organisme fête son demi-siècle d'existence, Son président, Nasser Olivier, rappelle la grave carence culturelle à laquelle les fondateurs ont tenté de remédier chez les francophones en leur donnant accès à une bibliothèque. La population française était dépourvue de tout moyen de compléter des études sérieuses. Les riches, seuls, pouvaient se payer le luxe d'une bibliothèque privée. Et les riches ont toujours été rares parmi nous. C'est pour combler un tel vide que l'Institut fut fondé. Le but était de réunir la jeunesse, de lui fournir des salles de lecture, des journaux, des revues, des livres, des conférences, et de lui faire aimer les lettres, les hautes études et la belle langue française. Plus conformiste que l'Institut canadien de Montréal, dont les idées politiques libérales s'attirent les foudres de l'ineffable évêque Bourget, l'ICQ cherche toutefois à maintenir un certain héritage canadien-français, francophone, catholique. Pour y parvenir, il ne semble pas céder à la modestie, étant conçu dans le but de former une bibliothèque, une chambre de lecture, un musée, d'organiser un mode d'instruction publique au moyen de diverses séries de lectures sur des sujets propres à répandre le goût de l'instruction, des arts, des sciences et d'étendre les connaissances utiles et pratiques pour l'avantage général de la société. Bref, ce n'est pas parce que les moyens sont petits qu'il faut pour autant s'empêcher de voir grand. Vous écoutez « Promenade dans une cité de mots », un texte de Marie-Ève Sévigny, paru le 13 juin 2023 dans la revue « Les libraires ». Le rêve d'une bibliothèque publique. Je décide de remonter à la source de ce vieux rêve de bibliothèque publique que l'ICQ porte avec la Ville de Québec depuis 1898. Le café donne du courage à mes jambes, mais le cœur pompe tout de même dans le cap. Je m'essouffle dans la côte de la montagne qui, au 19e siècle, rassemble plusieurs imprimeries et journaux. Bien sûr qu'il vante. L'infatigable Nordais de la capitale, bien humide, fait craquer les ormes et les érables nus du parc Montmorency. Ces arbres gigantesques semble dater de toute éternité, comme si, il n'y a pas si longtemps, des édifices n'avaient jamais occupé tout l'espace. C'est pourtant ici que, dans des locaux vides de l'ancien Parlement du Bas-Canada, l'ICQ installe sa bibliothèque et sa salle de lecture 1848-1850. Je me mets à errer dans le Vieux-Québec en quête des différentes adresses que l'ICQ a occupées jusqu'à sa collaboration avec la Ville de Québec. Il faut marcher dans le quartier pour songer que l'exiguïté de l'espace urbain n'est peut-être pas étrangère à la prudence de l'ICQ face aux idées progressistes du 19e siècle. Tout en visitant ses anciennes résidences au fil du temps, Maison Simard de la rue Buade, 1850-1863, Édifice de la Caisse d'économie, rue Saint-Jean, 1863-1882, Maison Bilodeau de la Côte de la Fabrique, 1882-1898. Je me bute immanquablement à l'imposant quadrilatère constitué par l'archevêché, le Séminaire de Québec, l'Université Laval, 1852, et la Basilique Notre-Dame. Un îlot de pierres ultramontaines élevées sur le roc qui embastille le savoir derrière ses murs ecclésiastiques. Tout en sachant qu'au 19e siècle, les dirigeants de l'ICQ viennent pour la plupart d'une bonne société plutôt placide, j'essaie d'imaginer les efforts qu'il leur a fallu déployer pour nourrir leur bibliothèque et tenir des conférences dans un tel climat de censure où l'index claustre les grandes œuvres dans l'enfer. C'est dire si, devant l'hôtel de ville, je reste épaté par la vision dont fait preuve le maire Simon-Napoléon Parent, 1855-1920, au moment d'accueillir l'ICQ dans son hôtel de ville flambant neuf, juste en face de la basilique. La Ville de Québec cherche à offrir une bibliothèque publique à sa population et désire aménager une nouvelle rue derrière l'hôtel de ville, là où se trouve la Maison Bilodeau, propriété de l'ICQ. Le mariage est signé devant notaire le 17 avril 1897. L'Institut vend son édifice à la Ville de Québec et ouvre sa salle de lecture à la population en échange de subventions annuelles. La Bibliothèque de Québec est née et l'ICQ en devient le gestionnaire officiel. Je ne peux m'empêcher de sourire à la pensée que, pendant une quarantaine d'années, la bibliothécaire de l'ICQ travaille et loge à l'hôtel de ville. Le savoir entre les mains d'une femme célibataire au nez de ces messieurs du séminaire. Il faudra un jour expliquer ce prodige. Tout au long du 20e siècle, les noces entre l'ICQ et la Ville de Québec ne cessent de faire des petits. Dans les années 1940, les premières bibliothèques pour enfants éclosent dans différents secteurs de Québec. Des succursales de quartier apparaissent dans Limoilou, 1950, Montcalm, 1955, puis Saint-Roch, 1965. En 1971, tandis que les bibliothèques municipales québécoises sont sous-développées en regard de celles du reste du Canada, pour chaque dollar dépensé annuellement par Montréal pour sa bibliothèque, Toronto en investit 3,17 $, Vancouver 3,55 $ et London 4,60 $. La Ville de Québec et l'ICQ rêvent audacieusement d'une bibliothèque centrale qui irait à la rencontre des gens pour leur offrir livres, disques, films, œuvres d'art, expositions et spectacles. Fini l'austère salle de lecture, on invente de nouveaux concepts. Artothèque, BDthèque, phonothèque, vidéothèque, laboratoire de langue, auxquels s'ajoute un secteur pour enfants, un auditorium et un centre d'exposition. Le projet Gabriel Leroy matérialise en 1983 le rêve d'une grande bibliothèque multimédia au cœur de la cité que Paris réalisera en 1994 et Montréal en 2005. Et dans quelques mois, l'établissement ouvrira ses portes avec un nouveau concept de foyer thématique. Le parfum du papier m'appelle le long de la rue Sainte-Anne jusqu'à la rue Saint-Angèle, où la petite porte de la bibliothèque Vieux-Québec, 1941-2014, a été poussée assez de fois pour en perdre le compte. Christine Brouillette et Marie Laberge ont été des fidèles du lieu, comme Jacques Poulain, qui y installe la narratrice de « La traduction est une histoire d'amour » 2006. Il ne faut pas se laisser duper par l'architecture néo-gothique, qui réfère à un autre siècle. À partir des années 1970, le réseau de l'ICQ est un chef de file en matière de bibliothéconomie. Son bibliobus promène 4500 volumes dans les quartiers périphériques de la ville. Sur la rue Saint-Pierre, sa phonothèque rassemble une collection de 3500 disques tout en exposant les œuvres d'artistes locaux. À la bibliothèque Gabriel Leroy, l'Artothèque met à la disposition du public pas moins de 2500 œuvres d'art, tandis que la Logitech donne accès dès 1985, à un ordinateur et à l'autoroute de l'information. On l'aura compris qu'il s'agisse de faire partie du projet pilote de prêt de livres numériques 2013, ou d'abolir les frais de retard, 2022, innover reste le souci constant de l'ICQ et de la Ville de Québec. Je regarde un garçon et une fille se chamailler en glissant leur BD dans la chute à livres. Peut-être ont-ils été accueillis par le programme Bibliothèque Terre d'accueil, qui offre des services adaptés aux personnes immigrées. Peut-être sont-ils tout simplement venus au monde à Québec et que la lecture leur est venue grâce à Une naissance, un livre. Créé par l'ICQ, 1999, aujourd'hui répandu dans la plupart des bibliothèques publiques du Québec. Ont-ils participé au club de lecture d'été? Aux ateliers d'éveil à la lecture? Je les regarde pousser la porte de la Maison de la littérature, 2015, non sans me dire que ce vieux rêve de bibliothèque publique, né au Parc Montmorency et porté par l'ICQ au cœur du Vieux-Québec, n'est sans doute pas étranger à la joyeuse turbulence de ses adolescents.
Pour entendre la suite de Promenade dans une cité de mots, vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.